Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic.
Radio Déclic. On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Eh bien, bonjour, vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Déclic sur les ondes de FPP 106.3. Alors aujourd'hui, un peu moins de monde autour de la table, mais comme on dit, les meilleurs sont là. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous recevons avec toi Annie du collectif Les Exclus, qui est conteuse et organisatrice de ce festival, accompagnée de Willy Matou, qui est écrivaine et également organisatrice de ce festival, pour en parler.
Voilà, donc un festival pour les migrants, et on rappelle que tout un festival qui se déroulera du 17 au 25 mars
et donc sur Paris.
Et puis les recettes, en tout cas, puisqu'il y a un repas, on verra tout ça tout à l'heure, mais en tout cas seront reversées à la CIMAD. Senzo, bonsoir.
Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle application, donc d'un navigateur en navigation privée sur nos smartphones. Donc voilà.
Voilà. Et puis Leslie, l'agenda.
Oui, bonsoir Florence. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des dates pour vos sorties aujourd'hui, comme d'habitude.
Voilà, puis un petit coucou allez, quand même de Philo qui est parmi nous, donc on fera pas, on en parle ou pas aujourd'hui, parce que voilà, programmation très chargée, mais en tout cas il est venu nous faire un coucou. Salut
oui,
Philo.
Oui, bonjour Florence, bonjour tout le monde.
Voilà, et on retrouve tout de suite la première partie du top 10 de CZ.
Et en numéro 10 donc, de ces pépites, on va aux États-Unis où une boîte de nuit ferme après avoir fait entrer un cheval sur la piste de danse. En numéro 9, on va à Rennes, ce cher pays breton cher à notre ingé son. Alors si je vous dis Michelangelo, Leonardo, Raphaël et Donatello, vous me répondez ?
Moi je sais pas, des peintres, des artistes, des acteurs.
Oui mais non.
Bon. Des tortues ?
Ouais, et tortue quoi ?
Ninja.
Ah ouais, exact, et oui. Car en décembre dernier, je vous explique tout ça tout de suite, en décembre dernier, lors du match Rennes-PSG, déguisés en tortue ninja, ils avaient fait éruption sur la pelouse du stade, car ils voulaient sauver Kylian Mbappé. Et oui, l'attaquant parisien est surnommé Donatello par ses coéquipiers. L'œuvre du trio donc, qui s'appelle les Inachevés, ça leur a coûté du coup 1050 euros d'amende et une interdiction de stade. Le trio a même pris le risque d'aggraver son cas en se filmant en salle d'audience, ce qui est formellement interdit. Le jour de l'audience, l'un des prévenus avait même pris le soin d'enfiler sa tenue de tortue ninja. D'ailleurs, vous verrez sur la page Facebook de l'émission la photo lors du mois de décembre quand ils ont fait éruption sur la pelouse. Voilà. En numéro 8, retour aux États-Unis où une femme accuse une drag queen, de l'avoir blessée avec sa poitrine au cours d'un dîner spectacle. Je vous explique très vite. Hein. Voilà, donc elle faisait son show, etc. Et puis sans faire exprès, elle a donné un coup de faux sang à une spectatrice. Numéro 7, Saint-Étienne. Si vous avez 1000 euros, vous en faites quoi ?
Alors là, je ne sais pas du tout.
Tu sais pas ?
Non.
Bah écoute, moi j'ai une petite idée. Écoute-moi bien. Bah tu fais comme ce couple de Stéphanois qui a décidé donc de dépenser ses 1000 euros en s'offrant pour le fond de sa piscine le blason de l'équipe de Saint-Étienne.
Ah, carrément. Alors voilà. L'eau était verte ?
Oui, bah non. L'eau est bleu ciel. Mais on voit bien, vous verrez la photo d'ailleurs sur le site, sur la page de l'émission. En numéro 6, harcèlement, stress au travail. Se défouler serait bénéfique. Je vous explique tout ça. Alors, piquer des épingles et des aiguilles sur une poupée représentant son patron permettrait aux salariés oppressés sur leur lieu de travail d'y restaurer un climat serein. Ces gestes qui visent à défouler l'employé sont appelés actes de représailles symboliques. Quelques 220 personnes ont participé à cette étude dans le cadre où ils ont suivi le programme du site doom.com. Les salariés ont pu donner à leur poupée le nom de leur patron, la brûler à l'aide d'une bougie, mais aussi la pincer et la piquer avec des aiguilles. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une poupée vaudou, mais plutôt d'une poupée patron en théorie. Tout ce qui peut servir de représailles symbolise comme lancer des fléchettes sur une photo de votre patron pourrait fonctionner. Cela permettrait d'assouvir la soif de vengeance et d'améliorer la qualité du travail. Les universitaires émettent cependant une réserve quant à l'efficacité de cette méthode. Ils considèrent cette option comme un comportement irrationnel qui démontre un manque de maîtrise de soi.
Voilà, en tout cas, c'est interdit à Radio Déclic de le faire. Hein.
Ah, moi, je pensais à mon patron, dans mon autre patron.
Bon, on
je viens de recevoir SMS, je suis viré. Allez, tout à l'heure, la suite du top 10 des pépites.
Radio Déclic 106.3.
Voilà, c'est l'heure de l'invité du jour. Alors Mehdi, aujourd'hui on va parler d'un festival, le festival Les Exclus. Et aujourd'hui en soi, nous avons deux invités en studio.
Oui, bonsoir Florence, bonsoir à tous. Avec nous en studio, Willy Matou, bonsoir.
Bonsoir.
Alors qui est co-organisatrice du festival Les Exclus et écrivaine. Et juste à côté d'elle, il y a Annie Montreuil. Bonjour Annie.
Bonjour.
Alors Annie, tu es conteuse et co-organisatrice également du festival Les Exclus. Alors vous êtes là toutes les deux pour nous en parler. Alors brièvement, qu'est-ce que c'est ce festival ?
Alors qu'est-ce que Les Exclus d'abord ? C'est un collectif d'artistes de la parole, des conteurs, slameurs, qui se sont réunis en fait à l'initiative de Dominique Declercq qui, il y a 3 ans, se demandait comment faire pour donner la parole en fait aux migrants. Enfin, ça s'est passé au moment où il habite Lille, ça s'est passé au moment où il y a eu toutes ces vagues d'immigration, des morts en mer dont on parlait de plus en plus, et il se demandait quoi faire. Et il a lancé une bouteille à la mer à tous les conteurs qu'il connaissait. Et parce qu'il a une compagnie de diffusion du conte. Il y a eu beaucoup de réponses dans toute la France, en fait. Et au départ, en fait, la journée des exclus devait se passer le 20 mars, lors de la journée mondiale du conte. Et c'est une édition qui a très très bien marché lors de la première année. Donc du coup, ça s'est fait 2 fois par an. Et maintenant, donc, l'événement phare a lieu une fois par an, mais sur une semaine. Et le festival, on réunit des conteurs, mais également, en fait, on travaille avec des associations. Là, avec le comité Exclus Paris, on a choisi de travailler avec la CIMAD. À nouveau cette année.
C'est la 4e édition, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui toutes les deux. Et donc, il va se dérouler du 17 au 25 mars, donc à Paris, à la salle...
Chakirail,
voilà. On reviendra sur la programmation en détail. Alors, c'est vrai que, bon, première édition, on va dire, c'est parti finalement les Exclus, donc ce collectif. Et c'est parti avec surtout les conteurs et les conteuses, donc pour apporter leur soutien. C'était une façon de parler des migrants et des migrantes.
Tout à fait. Et puis surtout, enfin, moi, en ce qui me concerne, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'artiste ? On ne savait pas quoi faire. Donc, on s'était dit, on parlait. Et puis, ça s'est fait petitement. Moi, je n'étais pas à l'organisation au départ. Mais donc, trois collègues, enfin, Albert Sandoz, Violaine Joffard, Marie-Laure Picard, qui travaillaient sur la question des migrants déjà en écriture, quand ils ont reçu cet appel, ont été voir une bibliothèque, la bibliothèque François Sagan à Paris, et leur ont demandé s'ils pouvaient raconter là-bas et réunir des gens. C'est une bibliothèque qui est très investie auprès des migrants parce qu'il faut aussi savoir qu'elles ouvrent aussi leurs portes. Il fait chaud là.
Oui, c'est vrai, tout à fait. En tant que conteuse, finalement, le premier départ pour vous, parce que vous n'êtes pas du tout une militante, et finalement, c'est comme ça que vous avez été vous-même aussi sensibilisée à la question des migrants.
Je ne suis pas une militante d'association particulière. Enfin, je fais plein de choses. J'ai aussi participé au petit déjeuner pour les migrants. Avec Midi à Solidarité Migrants Louis-Hudson, je fais plein de choses, mais pour moi, je n'ai pas envie de me dire il faut être militant, en fait, pour être sensibilisé à la question. Enfin, il faut être militant pour ne pas être touché par quelqu'un qui est dans la rue. Bon, c'est un peu les Exclus de manière générale. Hein. On n'est pas censé parler que des migrants. Bon, là, c'est la question qui nous préoccupe. Mais faut-il être militant pour être scandalisé par ça, je ne suis pas sûre.
Alors finalement, vous êtes investie finalement en tant que citoyenne, tout simplement.
Ben voilà.
En fait, au final, ce festival, c'est une sorte de regroupement de plein d'initiatives personnelles de plusieurs artistes.
Oui, parce qu'il y a aussi des illustrateurs qui vont dessiner en direct et pendant les moments des contes. Et il y aura la vente des illustrations. Et ce que j'ai appris, je ne savais pas, c'est qu'il y a un collectif d'illustrateurs qui s'appelle Ancrage et qui vend toute l'année des illustrations au profit d'associations pour les migrants. Il y a un collectif d'artistes qui a beaucoup travaillé avec les migrants aussi. Voilà, en rencontrant les gens, en les contactant, enfin, de bout en bout, il y a plein d'initiatives qui se font et c'est chouette que peu à peu tout fasse bloc et que les gens se rencontrent et se réunissent. Et c'est pour ça qu'on fait un repas débat. Donc, avec des bénévoles de la CIMADE, juste trouver une manière de discuter ensemble, de se rencontrer, de discuter ensemble autour de toutes ces questions.
Oui, alors la parole, elle est au centre de votre démarche, puisque bon, vous êtes des conteurs et conteuses. Et j'avais une question, est-ce que c'est important pour vous de ne pas parler à la place des migrants, mais que plutôt le festival soit un tremplin vers l'expression pour eux et elles ?
Oui, tout à fait. Il y aura des témoignages, pas encore assez nombreux pour moi, mais ceci dit, en fait, il y a une initiative par une conteuse qui s'appelle Julie Métieri, qui a fait tout un projet artistique avec des migrants. Son projet s'appelle Mobilhome et va être présenté, en fait, il y aura un documentaire qui va être présenté donc, sur ce projet, mais je ne peux pas en dire beaucoup, parce que je ne l'ai pas encore vu moi-même.
En tout cas, c'est un docu-fiction, voilà, un court-métrage dans la jungle de Calais. Ouais. Et donc, après, il y aura certainement un débat. Et là, en fait, voilà, il y a beaucoup d'art, finalement, divers et varié. Donc, c'est une autre approche, finalement, aussi, et une autre façon, puisque tous les fonds récoltés iront à la CIMADE, une autre façon de pouvoir parler de ce sujet à travers des ateliers, des résumés d'ateliers, puisqu'il y a eu des ateliers montés avec des migrants et des migrantes.
On espère que pas mal de migrants viendront en fait voir les spectacles.
Alors c'est d'ailleurs c'est gratuit, c'est une participation libre, c'est payant.
C'est une participation libre. La seule chose qui est payante en fait, c'est le repas qu'on va vendre à 6 euros, enfin et qui sera, enfin tout sera reversé. Il y a le prix coûtant, mais le reste va être versé en fait à la CIMADE, voilà.
D'accord, mais sinon en fait sur libre. Les autres dates, c'est prix libre.
Que je regarde, oui, tout à fait.
Donc tout le monde peut venir et notamment les exclus. Parce que,
tout à fait. Il y a une attention particulière aux enfants. Parce que comme le disaient des personnes de la CIMADE qu'on a rencontrées, bon, en parler aux enfants, faire de la médiation auprès des enfants, c'est déjà préparer l'avenir de l'accueil. On va présenter aux lycéens le film Le Havre de Aki Korismaki, au cinéma des cinéastes, avec façade des lycéens. Il y aura un débat animé par la CIMADE. Et aussi le spectacle Frontières à la Tour des Dames le mercredi 21 mars. Mais ça, je redirai les dates. C'est un spectacle sur les frontières avec des bénévoles de la CIMADE iront dans les centres de loisirs, les écoles, pour parler du spectacle.
Alors, la semaine de festival n'aura pas lieu qu'à Paris, puisqu'il y en a dans plusieurs villes de France. Est-ce que le but, c'est de multiplier la création de petits comités exclus partout en France pour, au final, alerter sur la situation en 2018 ?
Oui, puisque plus on est de fous, plus on rit. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Là, il y a un comité exclu qui va être créé à Béziers. C'est une ville frontiste, quand même. Voilà. Même si la CIMADE, elle a un point assez important à Béziers aussi. C'est ce que j'ai vu sur leur site. Paimpol, Nantes, Saint-Brieuc, donc un peu partout. Mais justement, on ne s'est pas encore réunis de manière nationale. Il n'y a pas encore une journée exclue avec tous les participants dans les différentes villes pour voir un peu où on en est. Je m'en réfère au blog. L'adresse du blog, elle est...
On redonnera et tout.
Ça marche d'une certaine manière, d'une manière autonome. Il n'y a pas une globalisation, il n'y a pas une centralisation. C'est vraiment... chacun peut créer son
tout
petit comité pour animer une soirée ou deux
tout
jours ou partout en France et même à l'international, je suppose.
C'est ce que souhaitait donc Dominique de Clercq, le diffuseur de ce spectacle de contes, qui a en fait, comme il connaissait beaucoup de monde dans toute la France en tant que diffuseur, il a juste lancé une bouteille à la mer. Ça ne voudrait pas de faire quelque chose, de raconter, d'organiser des spectacles. Et donc du coup, il s'est retrouvé avec une trentaine d'événements en un an qui avaient été organisés pour cela. Je crois que c'est une conteuse, une très grande conteuse, Bernadette Bidaud, qui c'est en Vendée, avait réuni 300-400 personnes en deux jours. Mais ça se fait de manière très simple.
Oui.
Pour le moment, il n'y a pas de grande organisation. C'est vraiment artisanal. Hein. Même le lieu, le Chakirai, c'est parce qu'on connaissait quelqu'un là-bas. Enfin, tout se fait de cette manière-là.
Ouais. Finalement, ça fonctionne, les réseaux fonctionnent. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Radio Déclic sur FPP 106.3. Nous retrouvons nos invités Annie et Willy Matou. Alors, on va passer maintenant justement la parole à Willy Matou. Alors, Willy Matou, toi, tu as participé aussi à des ateliers d'écriture de la CIMA. Tu es toi-même écrivaine. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se sont passés ces ateliers?
Alors, la CIMAD, en premier temps, comme moi j'écrivais tout souvent, et la personne qui me suivait, Marie-Hélène Pernot, elle m'a proposé, dit « Willy Matou, tu sais, j'ai vu tes écritures, ça m'a beaucoup plu. » Et la CIMAD fait une atelier d'écriture, est-ce que tu as envie de t'inscrire? Je dis oui, bien sûr. Pour moi, c'est une façon, en fait, de m'exprimer. Et j'ai participé à l'atelier d'écriture et je travaille en même temps à la maison de retraite. Et parfois, comme c'est tous les samedis, alors j'ai bloqué les samedis pour ne pas travailler et venir à mon atelier d'écriture. Voilà. Et après, par rapport à ça, il y avait Virginie Poitresson et Julien Delmar qui nous ont accompagnés. Au début, il y avait un homme et après, il s'est retiré. Et il a resté que des féminines, en fait.
Que des femmes. Et alors, justement, qu'est-ce que tu abordes, toi, dans tes textes?
Alors, moi, je parle souvent de l'immigration. Et moi, déjà, je suis une immigrée. Et donc, par rapport à ça et la solitude et tout ça, et ça m'a permis d'écrire, en fait. L'écriture m'a permis d'être très forte, en fait.
Oui, ça a été ton moteur de motivation. Voilà. Voilà, parce que alors, je rappelle, Willy Matou, donc toi, tu es arrivé dans les années 2004 à peu près en France. Mmh. Donc, tu étais une migrante. Et puis, donc avec la CIMAD, qui t'a aussi beaucoup aidé pour les papiers, etc. Et donc, c'est des problématiques que tu connais très bien, les problématiques des migrants et particulièrement des migrantes. Quelles sont les particularités des femmes migrantes? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des migrants de manière générale et de manière générale beaucoup des hommes. Hein, quand on parle de Calais, on a beaucoup parlé d'hommes. Et c'est vrai qu'il y a aussi des migrantes, des femmes, des enfants aussi. Alors, quelles sont les particularités des femmes migrantes et leurs difficultés?
Alors, la plus souvent, les femmes migrantes ne parlent pas trop. Elles gardent souvent leur souffrance en elles. Et en fait, elles essayent d'avoir un toit ou un endroit. Mais c'est très difficile, en fait. Parce que parfois, il y a des viols. Tu peux avoir un mec avec qui rester pour toi. En fait, elles se font avoir tout le temps, croyant que c'est par amour. Mais en fait, ces hommes, c'est pas par amour. En fait, c'est juste pour les avoir. Et après, les décès. Après, elles se retrouvent avec un gosse, des gosses, trois gosses, enfants de pères différents. Et en fait, c'est très, très difficile. Et après avoir eu leur papier et tout ça, ils n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a tellement de gosses à s'en occuper et ils n'ont pas où les laisser. Et voilà, ça reste comme ça. Et c'est vraiment très difficile, en fait.
Oui. Alors, qu'est-ce que le plus difficile quand on arrive dans un pays étranger, qu'on n'a pas les papiers pour pouvoir rester, donc ça veut dire pas de logement, etc. Et quand on est une femme, qu'est-ce qui est le plus dur?
Alors, le plus dur pour une femme et pour tous les migrants, que je vais dire, c'est de dormir dehors.
Oui.
Et ça, c'est très difficile, en fait. Donc, vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez personne, vous n'avez pas où dormir, vous ne connaissez pas comment il faut faire pour avoir un logement. Et vous dormez sur un banc, il y a des bruits partout, parfois il y a des gens malveillants. Et donc, surtout quand on est une femme, on peut se... C'est vraiment très difficile.
Oui, ouais,
très
oui.
Difficile.
Quand on arrive en France, quel est l'accueil de la population française, entre guillemets, des gens, en fait, qui, eux, ne rencontrent pas ces problèmes?
Le regard.
Le regard?
Le regard est très, très... c'est très amer, en fait. La façon dont on vous regarde ou la façon dont qu'il parle. À un moment, j'ai écouté une dame bien élégante, très belle, et elle a dit « Ah, vous venez, vous nous prenez tout. » Mais en fait, ces migrants, ils ne prennent rien du tout.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à faire passer comme message finalement aux gens pour qu'ils comprennent que la situation des migrants est difficile et qu'il faut les aider et qu'ils ne viennent pas par plaisir, sinon ils resteraient au pays finalement.
Bien sûr, juste les accueillir et les donner un sourire au moins et les aider à trouver au moins un toit. Et aussi, quand on n'a pas où dormir, on n'a pas la liberté. Quand on n'a pas un titre de séjour, comme on dit, les papiers, on n'a pas la liberté. Donner la liberté à ces gens de vivre. Et voilà.
Alors, pour revenir un petit peu, Willy Matou, sur les conditions des migrants et des migrantes, d'une manière générale, est-ce que tu peux nous parler aussi de... Parce qu'on a parlé des difficultés pour dormir, notamment pour les femmes, les agressions des gens. Mais est-ce que aussi la peur, notamment de la police, de se faire arrêter?
Alors oui, mais moi, en question, moi, j'ai peur de la police, en fait. En entendant les sirènes et tout ça, avant, quand j'avais pas mes papiers, ils disent, oh là là, ils vont me mettre dans le cachot. Et oui, tout le monde a peur de la police, en fait. Parce que vous savez, tous ces migrants qui viennent, c'est des gens qui ont déjà été brutalisés par la police dans leur pays et d'origine. Et donc, quand ils voient la police, ils disent, bon, c'est la même chose, hein, c'est la police. Hein. Donc, ils disent qu'ils sont tous bruts. Oui.
Mais, enfin, des migrants en France subissent quand même des violences policières, je dirais pas systématiquement, mais assez souvent. Est-ce que t'as entendu parler ou t'as subi ce genre de choses?
Alors moi, dans mon parcours, non, j'ai pas subi de violences policières. Et j'ai juste eu peur de la police, l'uniforme, la sirène. Donc oui, quand je les vois avec les matraques et tout ça, même parfois, hein, mais maintenant, quand je vois les sécurités dans le métro, je vois ça et en fait, oui, j'ai un sursaut en fait.
Toujours, ouais, oui. Ouais, ouais. Et alors, et d'une manière générale, pour les migrantes, est-ce que finalement il y a un traitement particulier pour les femmes migrantes?
Bah, écoutez, tous les migrants, à mon avis, sont traités. Je sais pas s'ils sont traités de la même façon, mais parfois c'est très difficile en fait. Les échanges et tout ça, comment on les parle. Même il y a d'autres dans des familles, j'en connais des migrantes qui se sont mariées avec des gens qui ne sont pas de même ethnie ou même culture ou des Français. Parfois, les familles croient que, bon, voilà, ah, il va tout nous prendre, mais non, c'est pas ça en fait.
Oui, il y a beaucoup de préjugés. Ouais. Cette peur
des préjugés,
ouais. Et des migrants et des personnes aussi, d'une manière générale, étrangères. Voilà, ouais, s'ils se marient avec toi ou si elles se marient avec toi, c'est pour les papiers, etc. Ouais. Il y a toujours cette suspicion, finalement, quand on vient d'un autre pays.
Tu es venu chez moi, tu as racheté ma terre. Tu as tout pris chez moi, tu m'as arraché ma terre. Je n'ai plus rien chez moi, je viens me chercher sur ta terre. Tu me rejettes chez toi, je suis exclu sur ta terre. Sans papier, je suis sans papier. Sans papier. Je suis sans papier.
On retrouve nos invités pour parler du festival Exclus.
Quels sont les temps forts de ce festival?
Alors, le gros temps fort, donc c'est la soirée d'ouverture le 17 mars au Chakirail. Donc, le Chakirail qui est tout près du métro La Chapelle, Max Dormois.
Voilà, donc 72 rue Riquet, dans le 18e à Paris.
Qui est pas très loin d'où dorment les migrants, justement.
Oui. Oui, oui, pas très loin. Bah, d'ailleurs, on avait été faire du tractage lors de la journée de grand froid. Il y avait plein de cantines, de cantines improvisées dans les rues. Alors, donc, ce sera une soirée avec beaucoup de musique. On voulait que ce soit aussi festif. Il y aura de la projection de documentaires, Jungle Light, Mobile Home. Il y aura donc un repas débat. Il y aura après tout cela un spectacle qu'on appelle Paroles croisées, avec des contes, des témoignages de migrants, avec des dessins, de la musique, l'intervention de la CIMAD. Et je parlais d'un bal. Il y aura un bal parce qu'on s'était dit que voilà, il fallait aussi danser et fêter la vie.
Donc le bal festif, donc avec le groupe Gabriella Balkan Brass Band.
Voilà.
Donc une manière de clôturer cette ouverture finalement.
Ouais. Et j'insiste pour dire que tous les artistes sont bénévoles, tout le monde est bénévole, on est tous bénévoles. Alors ensuite il y aura le mercredi 21 mars à 15h par la compagnie Les Rémouleurs, le spectacle Frontières au centre de la Tour des Dames, au 8 rue de la Tour des Dames, donc dans le 9e. C'est un spectacle de marionnettes, de théâtre d'ombre qui parle justement de cette notion de frontière. Et ça nous tenait vraiment, vraiment à cœur parce qu'on parlait aux enfants, débattre ensuite avec les enfants, avec des gens de la CIMAD. Pour nous, c'est un essentiel, en fait, parce qu'ils grandissent, les enfants. De même, le jeudi 22 mars à 9h30, il y aura un ciné-débat avec des lycéens autour du film Le Havre de Aki Kaurismäki, en fait, au cinéma des cinéastes. Pour le moment, je crois qu'il y a 4 classes qui vont venir, et donc on se réjouit vraiment de les accueillir et d'en parler. Et le samedi 24 mars, là c'est une soirée organisée par une conteuse qui s'appelle Antonietta Pizzorno, au café culturel Le Petit Nez, qui est près 10 avenue de la Porte de Montmartre. Et c'est là ce serait une soirée en partenariat avec le réseau éducation sans frontières. Donc un axe plus sur les enfants.
Le réseau éducation sans frontières qui milite notamment contre les expulsions de parents d'enfants qui sont à l'école scolarisés en France.
Voilà. Donc de 18h à 23h. Et le dimanche 25 mars, donc c'est la soirée de clôture au Chakirail, donc avec Marie-Laure Picard, Histoire de vie dans les valises. Donc elle a collecté des récits de vie. Et qu'elle va nous raconter en fait pendant une heure. Et Marie-Laure Picard est une organisatrice aussi du festival. Et Sirike et Mohamed, qui sont deux anciens migrants, ont fait un spectacle vraiment super et humoristique sur leur parcours en fait de migrants. Ils étaient là l'an passé pour présenter en 10 minutes un petit peu ce qu'était leur spectacle, et donc là ils vont le faire dans l'entièreté le dimanche 25 mars à 16h15.
En tout cas on redonnera en fait tout le programme, et puis ouais. on peut retrouver le programme, parce que les exclus, alors exclus on n'a pas dit, c'est X exclus C-L-U-S. Il y a la page Facebook où il y a toute la programmation du festival, il y a un blog aussi. Et puis, alors le blog, c'est donc http://exclu.over-blog.com. Sur Facebook, c'est exclu, vous le trouverez très, très facilement, où vous retrouvez toute cette programmation avec les dates, les horaires et l'adresse. Un dernier mot de conclusion, Annie, peut-être, ou Willy Matou?
Avant le texte, je voulais dire, quand j'ai rencontré Willy Matou, elle me disait qu'elle avait sorti un carnet. Elle a toujours un carnet sur elle, en fait, avec un crayon et puis des feuilles volantes. C'est un peu le bordel. Et elle m'a dit qu'elle s'asseyait sur les bancs, en général. D'accord. Donc, dans le 18e, beaucoup. Et que tu écoutais, tu rencontrais les migrants, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et que du coup, tu récoltais les phrases. Et quand tu rentrais chez toi, tu travaillais les textes en pensant à eux. Mais c'est de la collecte, en fait, en se promenant dans Paris.
Et tu as envie, un jour, Willy Matou, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de textes, de rassembler tout ça et puis de relier tout ça, de publier, en tout cas de soit d'en faire un livre, un recueil, et après de le publier.
Bien sûr, en ce moment je suis en train de réveiller toutes ces écritures qui dorment, parce que parfois j'écris dans le métro, je vais à Montmartre voir rencontrer les migrants, parler. Et quand j'ai écrit ces textes-là, déjà, j'ai rencontré un migrant, un vendeur à la sauvette. Et quand il y a eu la police qui est arrivée, et j'ai vu que d'autres migrants ils ont mis toutes leurs affaires dans des sacs poubelles, j'ai vu en fait courir, on dirait. Je me suis dit, non, je suis là dans le village au lointain d'Afrique. Je les ai vus courir comme ça. Et en même temps, mais ça m'a fait tellement peur. Et du coup, j'ai écrit un petit cahier, de 32 pages en 2 heures, comme ça.
Alors, aujourd'hui, que tu as tes papiers en situation régulière, en tout cas en France, est-ce que, voilà, tu es investi maintenant aussi à ce festival Exclus, est-ce que tu as, voilà, encore de plus en plus envie d'aider ceux qui arrivent, qui sont là, mais qui n'ont pas encore, leur situation est encore difficile, c'est tous ces migrants et ces migrantes?
Alors, je pense toujours à ces migrants et ces migrantes, et je pense toujours quand ils arrivent, comment ils vont faire, comment ils vont se retrouver. Et alors, je pense toujours à se traverser de la mort, comme je le dis. Et quand je vois ces gens traverser la mer et tout ça, je vois des gens éparpillés comme ça. Et franchement, moi, j'ai tout le temps des larmes dans les yeux, en fait.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui aussi, t'es écrit? Parce que je pense que ça peut être très utile de pouvoir les lire, que les gens les lisent, etc. Parce que c'est aussi une expérience de vie qu'on apporte, une parole et des écrits. Et comme on dit, les écrits restent. Mmh. Donc ça, c'est important.
Bien sûr, c'est important. En fait, en écrivant, on s'exprime. On parle de soi, on parle des autres, et on parle du futur, on parle du passé. Et pour moi, les écritures, vraiment, c'est très, très important, en fait. C'est pour ça que je partage ces écrits. Et dire que, j'écris aujourd'hui, j'ai pensé à ça, je vis ça, et j'ai passé à autre chose, je vais au futur. Et donc, je partage avec les gens, parce que je pense que c'est important de partager.
Oui. Alors, quel est le futur pour Willy Matsou aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas trop, mais en fait, je travaille, j'écris et aussi j'ai fait des cours de naturopathie. Et donc, quand ça vient, ça vient.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Le son du monde.
Alors voilà, jeudi dernier, au bord de la route à Port-de-la-Chapelle, un migrant, Karim, est décédé de froid ou de maladie. C'est encore incertain et des milliers d'autres vivent dans des conditions inhumaines, subissent des violences et... Tu nous as rapporté, Annie, un texte pour lui rendre hommage qui a été écrit par Clarisse Boutier du collectif Solidarité Migrants Wilson et tu souhaitais le lire.
Le texte qui a été dit est traduit en plusieurs langues en hommage à Karim et à tous les morts et disparus de l'exil. Ce n'est pas facile de parler, ce n'est pas que les mots nous manquent, les mots nous viennent par blocs, par phrases entières, parfois ils nous viennent comme des cris. Et les images aussi nous viennent, car la mort rôde Port de la Chapelle. Elle est partout, elle est sans cesse. Elle est dans les souvenirs du pays et ceux de la route, dans le souvenir de ceux qui ont disparu, disparu dans la mer, disparu quelque part en chemin, disparu dans la vallée de la Roya au port de la Chapelle, toutes celles, tous ceux dont on est resté sans nouvelles, qui sont si loin, qu'on aime, et dont on ne sait pas si on les reverra. La mort rôde jour et nuit à Paris, en Île-de-France, sur ces milliers d'enfants, de femmes et d'hommes, car nous manquons de tout ici. Nous manquons de nourriture, de chaussures, de couches pour les bébés, de médicaments et de docteurs, pour soigner des blessures de guerre et les plaies en tout genre. Et nous manquons aussi parfois d'espoir. Les mots nous viennent dans toutes les langues, ce sont des mots de colère et d'indignation. Ils nous viennent aussi parfois avec des larmes et des sanglots. Alors Karim, aujourd'hui nous pleurons pour toi, et nous pleurons aussi avec toi qui étais si compatissant pour tous ceux que l'on a perdus. Mais Karim, tu le sais aussi, la vie est partout, porte de la Chapelle. Elle est dans nos échanges surprenants, parfois difficiles, si riches. La vie est dans la solidarité de tous envers tous, si dérisoire et si précieuse. Elle est dans tout ce que nous recevons et dans tout ce que nous donnons. Elle est dans les yeux de cette jeunesse du monde capable de tant de prouesses. Elle est dans la dignité et l'humour si présents ici, porte de la Chapelle. Et partout, vous amenez dans votre minuscule bagage une immense part d'humanité. Alors Karim, on sait que tu ne nous en voudras pas de continuer à partager, à parler, à se rencontrer, à faire vivre l'espoir et à s'occuper des vivants. Repose en paix. Une prière a été dite par les camarades de Karim, puis une minute de silence a été observée à sa mémoire et celle de tous les autres disparus. Ceux qui le souhaitaient ont pu déposer une fleur sur les pierres gravées par les compagnons tailleurs de pierre.
Voilà, merci Annie. Donc un texte de Clarisse en hommage à Karim. Et on va finir avec un extrait aussi de texte de Willy Matou.
Frôler la mort, faire face à la mort, voir tes entrailles sombrer devant tes yeux.
Parler avec la mort quand le silence règne.
La nuit tombe, j'entends des cris, je ne sais pas d'où ça vient. Mes yeux brillent de peur, j'entends que mon tour arrive.
La mort me guette, les vagues me parlent, le vent souffle si fort que je sanglote, je ne sais pas nager.
La mort m'appelle, je ne sais pas, je n'ai pas envie de mourir. Les dents de la mer ouvrent leur gueule, en attendant qu'un bout de chair tombe.
Mais en fait, il faut céder la place, parce qu'il n'y a plus de place, alors ça tombe.
Les vagues sont si fortes, les bruits, les pleurs, je ne veux pas mourir. J'entends le claquement des rochers. Où suis-je ? Je ne sais pas. Entre la vie et la mort.
Le matin, je découvre que je suis seule sur un gros bateau, des gens éparpillés partout.
D'autres sont en train de me redonner un coup de souffle, de vie. Où sont les autres compagnons ?
Dites-moi quelque chose. J'ai oublié mon identité. La peur, le bruit des vagues m'ont rendu sourd-muet.
Il n'y a ni frère ni sœur. Je ne te connais pas.
Je veux juste traverser, vivre une vie meilleure, travailler, manger, dormir.
Certes, mais les souvenirs me hantent tellement.
Merci, un texte de Willy Matou et Annie, enfin un texte écrit par Willy Matou, ouais,
et lu et dit par
Willy Matou et Annie.
J'ai écrit ce texte quand j'ai vu les vagues des migrants. Et j'ai pensé, parce que j'écris souvent quand il y a des chocs comme ça et des trucs. Et j'écris dans mon petit cahier rose que j'ai depuis longtemps. Et je me suis dit que, bon, voilà, je me suis mis dans la peau de ces gens. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont entendre ? Ils entendront les bruits des vagues, les claquements des rochers. Et j'écris comme ça.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques phrases ou mots qui ont été dits par d'autres migrants, justement, quand tu t'installes et que tu entends des mots, des phrases qui passent ?
La mort me guette.
La mort me guette.
Oui. Et j'ai peur.
Merci à toutes les deux d'être passées par notre plateau. C'était de très beaux textes, de très belles émotions que vous nous avez transmises. Et on rappelle quand même, Florence, les dates du festival Les Exclus et puis les lieux et les temps forts.
Alors donc le festival Isclu, donc il se passera du 17 au 25 mars, donc dans plusieurs lieux. Donc avec la journée d'ouverture, donc c'est demain, samedi 17 mars, au Chakirai, qui se trouve 72 rue Riquet dans le 18e. Donc avec voilà plein de choses, projection de films, repas débat, paroles croisées, spectacles et bal festif à partir de 22h15. C'est ouvert à tout le monde. La participation est libre, prix libre. Et puis, le mercredi 21 mars, ça se passe au Centre Tour des Dames, donc 14-18 rue de la Tour des Dames, dans le 9e à Paris. Jeudi 22 mars, c'est du cinéma, donc au Cinéma des Cinéastes à 9h30. Donc, il y aura notamment pas mal de classes de lycéens. Donc, un cinéma ciné-débat avec la CIMAD. Autour du film Le Havre de Aki Kaurismäki, donc c'est 7 avenue de Clichy dans le 17e, samedi 24 de 18h à 23h au Ptiné, conte, slam, théâtre, donc on y retrouvera certainement peut-être un des contes de Dani.
Oui.
Oui, voilà, qui sera là. Et donc ça se passe au 17 avenue de la Porte de Montmartre dans le 18e. Et puis dimanche 25 mars, on revient au Chakirai, donc deux spectacles à 15h et un autre à 16h15. Voilà, donc Chakirai qui est au 72 rue Riquet à Paris dans le 18e. Donc vous retrouverez évidemment toutes ces dates sur la page Facebook de Radio Déclic, sur le site www.associationdéclic.org et puis sur le site, sur la page Facebook des Exclus, donc c'est Exclus, X-C-L-U-S, et sur le blog aussi exclus-over-du-6-blog.com.
Voilà, et il faut le rappeler, vous n'êtes pas que toutes les deux à l'organiser. Alors Annie, tu souhaitais citer le nom de tous les co-organisateurs de cet événement.
Donc Kadidia Toubaldé, Albert Sandoz, Ariane Pavin, Marie-Laure Picard, Violaine Joffard, Claire Péricard, Ariane Pavin, ouais.
Voilà, on a fait le tour et elle est Montreuil.
Voilà. Voilà.
En tout cas, merci à toutes les deux. À bientôt sur Radio Déclic 106.3. Et puis, ben voilà, on vous encourage à aller participer au festival. Donc, allez-y pour voir, pour rencontrer, pour échanger. Et pourquoi pas pour l'année prochaine ou pour la cinquième édition, ben, pouvoir aussi proposer des choses ou organiser vous-même votre exclu festival. Ça peut être chez vous, dans votre appartement, ou dans d'autres lieux. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci.
Je suis née ce matin, je m'appelle
Vous venez d'écouter le titre « Merci » du groupe Madame Monsieur. Alors c'est une chanson qui a été inspirée de la naissance de la petite Merci à bord de l'Aquarius. L'Aquarius, donc le bateau qui vient en secours aux migrants en Méditerranée. On retrouve la deuxième partie du top 10 de CZ.
Et en numéro 5, on va dans le Nord, où un beau cadeau de près de 2 millions d'euros que la mairie de Dunkerque ne pourra utiliser que sous deux conditions. Et oui, Marcel Delay est décédé il y a un peu plus d'un an. Après la mort de cet homme, la ville dans laquelle il habitait a eu la surprise de constater qu'elle avait été couchée sur le testament de cet administré. Et même qu'elle était l'unique légataire d'une petite fortune de 1,8 million d'euros. Mais attention, le généreux donateur a deux conditions. La première est que l'argent serve à construire une maison de retraite dans la commune. Cependant, même si la somme léguée semble importante, elle n'est toutefois pas suffisante pour bâtir une telle structure. En effet, selon une étude publiée dans le Moniteur, le prix d'une maison de retraite de 70 places dépasserait les 7 millions d'euros. Et la deuxième condition est moins problématique. Hein. Marcel souhaitait que la municipalité se charge d'ériger une plaque à son effigie dans le cimetière de Malo-les-Bains. Un vœu que le maire va exaucer en prenant soin que la plaque ne soit pas trop tape à l'œil. Numéro 4, on va en Moselle, donc dans l'est de la France. Avec flair, les policiers ont décidé de suivre une voiture d'où provenait une forte odeur de désodorisant. Et oui, pour tenter de cacher l'odeur du joint que les deux occupants de la voiture auraient fumé peu de temps avant.
Oui, voilà, c'est raté.
Ça, c'est fait. Numéro 3, Canada. Et oui, quand tu te trompes de drapeau lors d'une visite officielle. J'explique. Deux petits drapeaux, celui du Canada avec sa célèbre feuille d'érable et celui de l'Allemagne étaient liés par un ruban jaune sur un érable à sucre planté il y a plus de 40 ans par la reine Fabiola de Belgique. Et là vous dites, oui. Pas Canada, d'accord, c'est au Canada, l'Allemagne, mais après il parle de la Belgique. Et bien sûr, vous l'avez compris, hein, les drapeaux allemands et belges partagent les mêmes trois couleurs. L'un a des rayures verticales et l'autre horizontales. Bon, je vous rassure, l'erreur a été rapidement corrigée. Et vous verrez justement, avant qu'il corrige l'erreur, la petite photo sur la page Facebook de l'émission. Allez, numéro 2, on va en Haute-Saône, où les gendarmes contrôlent la passagère. Et là, lors d'un contrôle routier, les militaires ont pu constater avec le sourire que la passagère n'était en fait qu'une poupée gonflable. Porteuse de sa ceinture de sécurité, la passagère était en règle au regard du code de la route. Le jeune conducteur a expliqué qu'il s'agissait bien sûr d'une plaisanterie. Et pareil, vous verrez aussi la photo sur la page Facebook de l'émission.
On voit la passagère sans le conducteur. Hein,
oui, bien sûr. Voilà, allez, en numéro 1, Indonésie, où quand un orang-outan se prend pour un homme. Et oui, un orang-outan de 22 ans a été filmé en train de fumer une cigarette jetée allumée dans sa direction par un visiteur du zoo le 4 mars dernier. Et oui, il est bien sûr interdit de jeter du tabac ou des aliments en direction des animaux du zoo, mais ces consignes sont très souvent ignorées par les visiteurs. Des défenseurs des animaux ont condamné le geste du visiteur. Ce n'est pas la première fois qu'un orang-outan se fait prendre en train de fumer une cigarette en Indonésie, pays où le niveau de protection des animaux est très faible et dont les habitants figurent parmi les plus gros fumeurs du monde. Pour la petite histoire, en 2012, un singe d'un autre zoo était devenu dépendant à la nicotine avant d'être contraint à un sevrage brutal.
Voilà, ça peut prêter à sourire, mais malheureusement, c'est grave et ça a des conséquences sur les animaux.
C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Le côté souriant, mais aussi le côté grave. Et voilà, moi c'est tout pour le top 10 des pépites. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
C'est l'heure de retrouver la chronique high-tech de Senzo.
Et oui, de retour pour la chronique high-tech. Donc aujourd'hui, on va parler d'un navigateur privé. Donc navigateur privé, en fait, ça va nous permettre d'éviter tout ce qui est tracking. Le tracking, en fait, sur Internet, quand on fait une recherche, on se retrouve à voir sur tous les sites où on va après cette recherche, à avoir des pubs qui concernent la recherche qu'on a effectuée. Donc ça devient un peu saoulant, surtout quand tu as acheté le produit, c'est bon, tu n'en as plus besoin. Mais tu vois plusieurs fois quand même le produit dans toutes les pubs. Donc on est immergé de pubs tout partout.
Ouais.
Et du coup, ce navigateur, il nous permet justement d'éviter ça. Ça veut dire qu'on navigue dessus, on fait nos achats, on parcourt les sites, mais on n'a pas cette histoire de tracking parce qu'en fait, il empêche justement le tracking d'Internet. Et il supprime aussi les pubs des pages Internet.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Ouais. Franchement, c'est mieux parce qu'on est de plus en plus immergé de pubs là.
Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de bloqueur de pub ?
Bah, en fait, c'est un navigateur avec bloqueur de pub.
D'accord, déjà intégré.
Donc je vais le nommer, en fait, c'est Firefox Focus. Donc Firefox, c'est pas le navigateur qu'on connaît, Mozilla Firefox, mais c'est eux qui l'ont créé quand même. C'est une autre application à part entière, Firefox Focus, qui est en fait un navigateur directement en navigation privée. Donc on fait pas comme sur notre navigateur habituel navigation privée. Lui, il est déjà en navigation privée. Et du coup, bah voilà, on se passe des traquages de pubs, on se passe des pubs. Et du coup, on a une confidentialité par défaut. Ils savent pas qui on est quand on circule sur D'accord. Internet.
Donc on a donc très peu de chances de recevoir des pubs parce qu'on est en train de regarder une table par exemple, de recevoir plein de pubs de magasins qui montent des tables.
Du coup, on a une navigation sécurisée. Anonyme, totalement anonyme, à partir du moment où, si on associe ça avec un moteur de recherche comme Quens, qui est le concurrent de Google et qui, eux, n'utilisent pas nos données, on est totalement anonyme et on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on quitte l'application et qu'on ferme l'application, toutes les navigations qu'on a faites ne sont pas enregistrées, sont automatiquement effacées.
Alors finalement, c'est comme si qu'on était sous navigation privée là, comme on
exact.
Peut.
Exact. Sauf que il est bien plus poussé que la navigation privée des navigateurs qu'on connaît. Et du coup aussi, ce qui est intéressant avec lui, c'est que si vous aimez bien votre navigateur, je sais pas, par exemple Safari ou Chrome, etc. Lui, il fournit quand même, si vous avez l'application, il fournit une extension et qui va venir un peu comme AdBlocker bloquer les pubs. Donc il a aussi cette fonction d'extension, même si on ne l'utilise pas lui, mais sur un autre navigateur, on peut utiliser cette fonction.
D'accord, très bien.
Donc
cool.
Voilà, donc Firefox Focus, disponible sur Android et iOS gratuitement.
Voilà, écoutez, on va télécharger tout ça, parce qu'il a l'air très intéressant, en tout cas, ce navigateur de recherche Internet. Pardon. Ben merci Senzo.
Il n'y a pas de quoi. Hein.
Une autre application d'ici 15 jours.
Et en espérant que toutes mes applications vous plaisent.
On retrouve tout de suite Leslie pour l'agenda.
Oui, alors il y aura un festival littéraire de Hors Limite organisé par l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis qui aura lieu du 16 au 31 mars dans tous les départements du 93. Donc des lectures musicales, des rencontres, des performances, des projections et musique vous attendent cette année avec 110 événements programmés. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur horslimite.fr. Du côté de l'art, et toujours du 16 au 31 mars, le 6B, qui est une association, organise son propre salon autour du dessin contemporain. Ce salon est l'occasion pour des artistes émergents dans le domaine artistique peut exposer, de montrer ce qu'ils savent faire. Donc ce salon se trouvera du 6 au 10 quai Seine-Saint-Denis. Ensuite, le vendredi 16 et dimanche 18, le collectif Galapia Cirque met en scène un cabaret et remettra au goût du jour des pratiques du cirque forain. Le cabaret aura lieu au 1 et 9 rue Cheminot à Saint-Denis. Ensuite, du 17 au 30 mars, c'est la quinzaine antiraciste et solidaire organisée par un collectif d'associations de la ville de Saint-Denis.
Voilà, alors je vais vous donner quelques petites dates pour cette quinzaine antiraciste et solidaire. Donc ça commence déjà direct demain, le 17 à 13h, 17 mars à 13h avec la marche des solidarités, le racisme d'État tue. Donc c'est donc un appel du collectif d'associations de la quinzaine, donc à participer à la grande mobilisation antiraciste. Donc c'est une manif, un parcours, opéra, Barbès, Stalingrad. Donc on vous donne rendez-vous à 13h sur le parvis de la mairie de Saint-Denis, départ en métro jusqu'à Opéra. Ensuite, on revient le soir à 20h, c'est un concert du groupe L'Arabia, donc en solidarité avec les réfugiés. Donc L'Arabia, c'est un groupe dionysien. Le 18 mars à 12h30, repas solidaire et rencontre, puisque avec l'association Uwaki Nord Kiwu, partenaire du CCFD, Terre Solidaire en République démocratique du Congo, donc une organisation paysanne féminine de République démocratique du Congo qui viendra et qui se mobilise pour la souveraineté alimentaire et la promotion des droits des femmes rurales dans une région encore ravagée par la guerre. Donc ça se passera à la salle Saint-Denis, c'est le 18 mars à 12h30. Ensuite, le 21 mars à 15h, il y a un spectacle donc par la compagnie Badge J. Donc c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. L'inscription est obligatoire à la maison de la vie associative. Le 21 mars à 18h, projection débat, donc une projection du film « Toute ma vie en prison » de William Francom, qui en fait raconte, puisque c'est un Anglais qui est né en décembre 81, et c'est le même jour de sa naissance, un autre homme est jeté en prison. Cet homme, il s'appelle Mumia Abu-Jamal, c'est un ancien des Black Panthers, et voilà, donc il a fait ce film parce qu'il a grandi finalement avec cette histoire de Mumia. Donc ça se passera à Saint-Denis, ça se passera à l'hôtel de ville, puisque ça sera suivi ensuite d'un débat avec Samuel Légitimus et Juliette Sidi du comité Mumia Saint-Denis. Le 22 mars, projection débat, toujours, donc à 20h30. Ça se passe au cinéma L'Écran, donc ça sera, évidemment, il y aura une projection suivie d'un débat. Et le 23 mars à 19h, Résister en poésie, lecture autour du recueil de poèmes des frères migrants de Patrick Chamoiseau. Et témoignage d'Agnès Cluzel sur le dispositif programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Ça se passera à la librairie Folidanque. Voilà, c'était quelques dates comme ça de la quinzaine. On pourrait retrouver tout le programme sur le site www.associationdesclics.org.
Alors oui, on continue avec les dates. Donc, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme...
Des femmes, pardon.
La ville de Saint-Denis se mobilise pour l'égalité femmes et hommes jusqu'au 18 mars. Les médiathèques de la pleine commune proposent de nombreux rendez-vous autour de projections, de jeux, de lectures, d'ateliers, expositions, débats et musique. Et pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher auprès de vos médiathèques. Ensuite, jusqu'au 21 mars, le Conservatoire de Saint-Denis organise de nombreux concerts et spectacles. L'entrée est libre à tous les concerts également. Le conservatoire se trouve au 15 rue Catulienne à Saint-Denis. Le samedi 24 mars à 10h30, l'association Beaux et Regards propose une initiative à la lecture d'albums jeunesse pour les parents, les assistantes maternelles, les éducatrices de jeunes enfants à la salle Choisel au 16 rue de Strasbourg à Saint-Denis. Et pour finir, jusqu'au 30 mars, c'est la semaine anticoloniale qui se passe à Bellevilloise au 21 rue Boyer à Paris 20. Voilà, c'est tout pour les dates.
Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Donc voilà, tout le monde sera là. On retrouvera les rendez-vous de Georges et la chronique On en parle ou pas de Philo, évidemment, l'agenda de Leslie, la chronique high-tech de Senzo, le journal d'information de Mehdi. Voilà, et puis à la réalisation technique et programmation musicale, c'était Gaëtan. Salut tout le monde, restez à l'écoute de FPP 106.3 pour la suite de vos programmes. Salut, bye bye.